Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Bienvenue à vous tous, c'est le rendez-vous qui donne de bonnes ondes, qui envoie de bonnes ondes depuis la rentrée. C'est avec Mathieu Noël qu'il faut compter entre 16h et 18h. Chaque après-midi, je le rappelle, les journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de notre culture générale. Un seul se voit élu chroniqueur du jour, celui ou celle dont le sujet fait mouche, accroche, intrigue. Aux côtés de Mathieu Noël, il y a bien sûr Eva Rock et un invité dont le vote compte triple. Le week-end, c'est un petit peu les moments qu'il ne fallait pas manquer, que nous vous offrons. Et tout de suite, on va commencer avec Ève Roger du service société d'Europe 1, chef du service société qui tente de séduire Pascal Obispo avec son sujet.
Elle est en tête du classement Europe 1 des meilleurs journalistes. Ève Roger, vous allez à présent nous parler d'un sujet qui va intéresser les parents qui nous écoutent, car c'est un vrai casse-tête. Hein. Comment parler du porno avec ses ados?
Alors d'abord, il faut savoir que les enfants regardent des images pornographiques à peu près à 11 ans. L'âge moyen.
Ah,
et même avant. Moyen, et ça, c'est grâce au smartphone. C'est-à-dire que n'importe quelle connexion à Internet, vous tombez sur du porno. Parfois, il y a des pauvres enfants, ils n'ont rien demandé et ça leur arrive comme ça sur les yeux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge de la première relation sexuelle n'a pas changé. On est toujours autour de 17 ans, 17 ans et demi. Mais ce qui a changé, ce sont les pratiques. Ah. Parce que ces jeunes croient que l'acte sexuel, le rapport sexuel, c'est ce qu'ils voient
mais
sur les images pornographiques.
Ça doit leur mettre une pression folle, du coup.
Donc, c'est à la fois une pression. Et puis après, ils pensent que c'est un scénario qu'il faut suivre avec des pratiques parfois extrêmes dès le premier rapport sexuel. Alors je ne veux pas dire de gros mots, mais c'est fellation, sodomie et j'en passe. Les garçons, ils tirent les cheveux des filles parce qu'ils croient que c'est comme ça qu'on fait l'amour. Et donc, vous allez d'abord entendre Inès. Inès, elle a 17 ans et elle raconte ce que c'est que la première fois pour ses copines.
C'est tout de suite très violent en fait. Leurs petits copains ont essayé de reproduire ce qu'ils voient dans les films pornographiques. Donc, ils ne sont pas doux, ils sont assez violents. Ils veulent tout de suite faire plusieurs positions. L'envie de reproduire pour penser faire bien en fait.
Voilà, penser faire bien, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça?
Je vous pose la question, Ève Roger.
Voilà, alors d'abord, ne pas les engueuler, parce que parfois, ils n'y sont pour rien. Il vaut mieux en parler plutôt que les engueuler. Et puis, il faut parler et décrypter ces images avec eux, en commençant par les interroger. Donc voilà, le premier mode d'emploi, c'est Isabelle Filiosa, elle est thérapeute familiale, et elle vous montre comment il faut les interroger.
Qu'est-ce que tu as vu exactement? Et tu avais l'impression, ah bon, elle criait, donc ça lui faisait plaisir, tu crois? Et après, on lui explique les trucages du porno. Les personnes, elles sont payées pour faire des petits cris. C'est pas obligatoire que forcément, elles aient du plaisir. Après, on lui explique que si les poils sont épilés, ce n'est pas parce que c'est bien de s'épiler, c'est simplement parce que comme ça, la caméra voit mieux.
Alors, on peut leur aussi parler du maquillage des acteurs et des actrices. On peut leur parler des médicaments qu'ils prennent, le Viagra pour les hommes, des antidouleurs pour les femmes, des décontractants musculaires pour que ça dure longtemps. Donc, leur expliquer qu'en fait, que c'est du cinéma. Et ces enfants-là, ces ados-là, ils savent très bien que, par exemple, les cascades ou les courtes poursuites dans les films, c'est du chiquet. Mais il faut leur dire que c'est exactement la même chose. Et c'est comme ça qu'on peut leur en parler sans finalement, Mathieu, être gêné. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de sexualité, on parle de comment est construit un film pornographique. Je voudrais juste terminer en vous parlant d'un livre qui s'appelle « Sexpérience », écrit par Isabelle Filiosa. Et je peux vous assurer, c'est l'anti-porno. Quoi. Et donc, l'idée, c'est à partir de 13 ans, vous laissez traîner ce livre à la maison. Vous ne le donnez pas à votre gamin
en disant «
Tiens, voilà, je vais te parler de sexualité ». Vous le laissez traîner.
Négligemment.
Et c'est vraiment le guide de l'amour tel qu'on en rêve.
En fait, il faudrait laisser sur les réseaux sociaux, il faudrait fabriquer cette façon de faire, façon de faire normale, et le laisser gratuite en fait.
C'est ça, mais c'est
faudrait montrer des films, enfin pornographiques, mais doux en fait.
Voilà,
c'est
avec
ça.
Des
caresses. Si je peux me permettre, je ne suis pas un spécialiste du porno, mais je crois qu'il y a des réalisatrices, notamment des femmes,
qui ont décidé de prendre
Ovidie, on peut la citer, qui a décidé de prendre le contre-pied en faisant des films porno, mais qui sont parfois tendre.
Il y en a qui sont beaucoup plus doux, c'est vrai.
Ouais,
tu le sais.
Je le sais parce que rien que l'autre jour, on en a regardé ensemble. Bon, Eva.
Juste pour conclure avec cette conversation, effectivement, sur la plateforme Slash TV qui dépend de France Télévisions, si vous êtes parents et enfants, vous pouvez trouver notamment plein de petits courts-métrages, de programmes courts qui parlent de sexualité bien, qui informent, qui sont pédagogiques et où il n'y a pas. On vous explique la différence avec la pornographie, ça s'appelle Slash TV.
Le problème, c'est que ça arrive pendant l'adolescence. Et l'adolescence, on a envie de représenter quand on était dans les années où 60-80, on mettait des blousons noirs. Là, c'est autre chose. Il y a une autre culture. Et c'est vrai que c'est un peu plus violent. Donc, dans l'adolescence, on a envie d'être un homme et on est un peu plus. Un peu plus dur, donc c'est un peu compliqué.
Non mais les garçons aussi aiment l'amour, aiment la tendresse et
bien sûr,
ils demandent juste qu'elle la découvre.
Absolument. Non, il faut pas mettre de pression sur eux comme vous disiez tout à l'heure.
Merci Ève Roger. Eva, une remarque par rapport à la chronique d'Ève.
Ma voisine de palier est une star de porno.
On l'embrasse.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Et oui, jusqu'à 18h, vous écoutez L'Équipe est sauvage avec Mathieu Noël, entouré d'Eva Rock, bien sûr, sa complice, des journalistes compétiteurs d'Europe 1 et d'un invité. Ici, c'est Dave, de retour avec un nouvel album, Souviens-toi d'aimer. Vous y retrouvez notamment ce titre, Une femme qui s'en va.
Une femme qui s'en va, ça ne revient jamais. Et la mélancolie vient alors s'installer.
Cet album, il est produit par Renaud, Dave, et je crois que cette chanson est même écrite par Renaud.
Les paroles sont de Renaud, et quand on écoute bien ces paroles, on s'explique un peu mieux ses problèmes, quoi.
Exactement.
Il dit d'ailleurs lui-même qu'il a une certaine mélancolie. Mais cela dit, il a fait une déclaration d'autre jour dans une autre chanson périphérique, ça se dit plus, je m'imagine.
Non, ça ne se dit plus, mais c'est délicieusement vintage.
Où il disait qu'il allait très bien, et c'est vrai que ça fait plus de 10 mois qu'il ne va pas, et c'est pas le même homme. C'est un vrai phénix, quoi. Et donc là, il est prêt à l'attaque parce que l'album sort en novembre. J'ai eu le plaisir de l'entendre. Il est exceptionnel.
Alors, vous savez, en France, on a pas mal de clichés. J'en ai aussi. Pour moi, l'univers de Dave et celui de Renaud, c'était pas tout à fait la même chose. Comment s'est faite la rencontre
C'est drôle parce que on lit toujours des choses très sympas sur le net. Et j'ai lu quelqu'un qui a dit Renaud qui produit Dave, à quand Maître Gims va produire Mireille Mathieu.
Je ne serais pas allé jusque-là.
Moi, c'est Maître Gims dans l'histoire.
Oui, mais c'est ce que j'allais vous demander.
Vous êtes la modernité. Il aurait dû y avoir un duo aussi avec Renaud. J'ai lu ça quelque part. Je ne sais pas si c'est vrai.
Dans le Parisien, on lui a posé les questions. Ouais. Pourquoi cette chanson-là, on ne l'a pas fait en duo? Et il a dit, parce que Dave, il a une très jolie voix et moi, j'ai une voix pourrie. C'est lui qui le dit parce que je ne trouve pas. Il a un timbre exceptionnel. Mais c'est vrai qu'il n'a pas voulu le faire.
Mais alors, pour le coup, c'est vrai que vous avez une voix exceptionnelle à 75
ans. Mais surtout, une voix qui ne bouge pas.
Une voix qui ne bouge pas. Il y a une chanson que je vais... Attendez, je me suis notée, Pas à l'abri.
Oui,
dans votre album.
Il y a un contre-truc.
Où vous avez vraiment une voix d'une clarté absolue.
Ouais.
Comment vous faites attention à ce que vous consommez, à ce que vous consommez
autour de moi, avant de faire une explication, la voix c'est comme les cheveux. C'est dans l'ADN. Il y en a qui le perdent, il y en a qui le perdent.
C'est
pas.
Le seul point faible d'Annie Sembida. C'est son talon d'Achille. Vous l'avez touché.
Non, mais Jules Brenner plaisait beaucoup.
Il chantait très mal.
C'est vrai que vous aimez le foot.
J'adore regarder le foot. J'en ai fait quand j'étais jeune. Ouais.
Ah, vous avez même pratiqué le foot?
Oui, quand j'étais encore natif. Enfin, je suis né à Amsterdam et avant qu'on a déménagé, j'ai joué foot. Et j'aimais beaucoup le foot. J'aimais bien le vestiaire aussi. Mais...
Vous aimez bien la troisième mi-temps. Alors, quel regard vous portez sur la polémique de ces derniers jours, sur les cris, les insultes homophobes qui fusent dans les tribunes? Il y a deux écoles, soit ceux qui disent qu'il faut, quand on entend une insulte homophobe, arrêter le match, soit ceux qui disent qu'il faut prendre le problème en amont. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter le match?
En tout cas, j'espère que ces gros cons qui font ça ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent blesser et même tuer. Ça va très très loin. Les enfants qui sont nés homo dans le 6e arrondissement de Paris, ça va peut-être aller, mais ceux qui sont nés à Angoulême, c'est plus compliqué. Et les gens ne se rendent vraiment pas compte à quel point ça peut blesser. Ce n'est pas évidemment aussi grave que les meurtres que font les maris sur leurs femmes, mais ce n'est pas loin. Donc évidemment, après, ce qu'il faut intervenir ou pas intervenir, ce n'est pas me le juger. En plus, je n'ai même pas le droit de vote en France, je suis né hollandais. Je suis hollandais, je n'ai pas le droit de vote.
Vous n'êtes toujours pas naturalisé français depuis tout le
non,
temps?
Non, mais en étant hollandais, je peux même devenir maire, mais j'aime pas déjà à Malfou à devenir père. Ça, c'est une phrase de mon tour de chant.
Nous sommes-nous dans ce monde étrange, que deux moitiés d'une même orange, qui se cherchent inlassablement, sans se retrouver forcément.
Alors là, on entend un titre un peu particulier, j'imagine, pour vous, Deux moitiés d'une même orange, écrit par Patrick Loiseau, qui est votre parolier, et votre compagnon depuis combien d'années maintenant, Dave, déjà
48.
48 ans. Donc j'imagine que
et
cette
c'est
chanson...
Lui qui chante, hein.
Et c'est lui qui chante, bien sûr, c'est un duo.
Ouais. C'est la première fois que vous chantez ensemble?
Oui, le dernier aussi, parce que... Non, mais il n'aime pas, lui, il n'aime pas ça.
C'est vrai?
Non,
c'est vous qui l'avez convaincu à faire ce titre avec vous?
Difficilement. J'avais proposé à Zaz, elle a dit non pour faire court, et j'aime beaucoup Zaz, ouais. Et Thierry Giffroy, qui a composé la chanson, a dit « Pourquoi tu ne le fais pas avec Patrick ?» J'ai dit « Why not ?» Donc c'est sympa, hein, j'aime bien le résultat. Moi, j'ai fait le Bobino le 18 novembre, mm-hmm. Et il ne sera pas là, enfin, il sera dans la salle.
Il ne montera pas pour faire le duo?
Ah non, non. Ça lui est il est déjà totalement misanthrope.
Non, non, il n'aime pas ça. On l'embrasse.
Est-ce qu'on peut parler d'une forme de nostalgie dans cet album ou vous n'aimez pas le mot nostalgie
d'ailleurs? J'ai aucun problème contre moi. Je ne sais pas pourquoi en France, il y a ce mot qui est mal vu. Quoi. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, je dis ça parce que les artistes, il ne faut pas leur dire ça en France. Les artistes français, vous leur dites de nostalgie. Ah non, je n'aime pas le mot nostalgie. Ah, bah, je parlerai plutôt de mélancolie.
Attends, quand on a 75 ans, c'est quand même plus rassurant de regarder derrière que devant. Il n'y en a pas longtemps. Hein. Non. Puis ce qu'on fait là, par exemple, aujourd'hui, dans 3 semaines, oh, c'était bien cette émission. C'est déjà de la nostalgie. C'est vrai que dans la nostalgie, il y a algie qui veut dire douleur. Il y a une forme de douleur. Mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est hyper rassurant.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Dave, j'ai dit, je vous connais un tout petit peu. Je sais qu'il y a chez vous la peur de manquer. Mais entre la tournée H-Tendre et Tête de Bois et vos années Incroyable Talent, j'imagine que la maison de Lille-sur-Sorgue est remboursée maintenant.
Ah ben, bah, elle était payée par la pub du fromage.
Ça a bien payé, ça. Énorme.
Énorme. Ah oui, j'étais l'ambassadeur officiel pendant 3 ans de l'Office national des produits laitiers d'Hollande. Il y en avait un papier, il y en avait en Allemagne. Et moi, j'ai fait ça. Ah oui, ça payait une grande partie de la maison. Oui.
Alors Dave, vous êtes né à Amsterdam. Oui. Ne cédant rien à la facilité, vous me connaissez, pour le quiz du jour, nous avons décidé de faire un vrai faux sur la Hollande. Les Pays-Bas, les Néerlandais, enfin sachant qu'on n'a jamais vraiment compris la différence entre tout ça. Vous
mais
répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point.
Mais évidemment qu'il va gagner,
mais
Dave.
C'est le principe de ce quiz. C'est chaque fois l'invité.
C'est voilà. Gentil. Merci.
Voilà. Dave, en 2013, les médecins de l'université d'Utrecht sont tombés sur un cas étonnant. Une femme qui avait des orgasmes par les pieds. Vrai ou faux?
Ah bah, j'étais parti en 65. Donc on a égalité devant cette question. Mais c'est sûr qu'on peut prendre son pied.
Vous répondez oui, vous avez raison. Du pied gauche même. Les orgasmes duraient de 5 à 6 secondes et se produisaient 5 à 6 fois. Le cerveau avait un dysfonctionnement. Les informations venant du pied étaient interprétées comme venant du vagin.
Mais c'est horrible.
Mais ce qui est terrible, c'est la conclusion. Elle a finalement été guérie. C'est que vous voyez idiot de la guérir, parce que si on peut prendre son pied par le pied.
Mais non, mais si, parce que si à chaque fois qu'elle marchait, elle avait un orgasme, ça fait.
Imaginez, ça serait le bonheur. J'adorerais. Eva Rock, la France et les Pays-Bas ont une frontière commune. C'est le moment de visualiser une carte. Frontière commune, vrai ou faux?
Bah non.
Non, pas de frontière commune, hein.
Bah non.
Ça serait... Mais en même temps, qu'est-ce que ça foutrait dans un quiz s'il y avait cette question? Bah c'est vrai.
Dans les Caraïbes,
le nord de l'île de Saint-Martin est française, le sud est néerlandais. Eh ben oui, mais il fallait réfléchir, c'est ça le problème. C'est ça le problème de ce quiz, c'est qu'il faut réfléchir. Même principe, une question, 3 propositions. Gwenny et Marino sont flamands, ils ont 9 enfants et sont un peu facétieux. Qu'ont-ils fait? 1. Ils ont tous un prénom avec juste les lettres A, X, E et L. 2. Ils ont tous appris une langue différente, du coup, les dîners sont un peu compliqués. Ou 3. Ils ont tous les cheveux roses, ce qui est rigolo pour des flamands.
Non.
Alors, là, tout de suite, une précision importante pour nos auditeurs qui me suivent depuis longtemps. Ça, c'est la seule partie de l'émission que je ne rédige pas, c'est le quiz. Hein. Voilà, c'est une histoire de bombe piégée pour moi-même. Donc, je salue Sébastien Bordonnave qui concocte ces questions.
Elle est géniale, cette
voilà,
question.
Voilà, je ne sais pas. Alors, d'après vous.
Qu'est-ce que vous dites, Dave?
Bah, c'est-à-dire que tant de prénoms avec Alix, Axel, etc., ça me semble compliqué. Mais si leurs parents sont rouquins, pourquoi ils ne seront pas rouquins?
Ouais.
Au moins, c'est possible.
Ouais.
Donc moi, je dirais ça.
Vous dites quoi? Vous dites les
cheveux roses.
Les cheveux roses? Non, les lettres dans les prénoms.
Eh bien, Eva, une fois n'est pas coutume, vous marquez un point dans cette émission.
Ah, quand même.
Le premier enfant, c'était Axel, donc assez simple. Le deuxième, Alex. Du coup, ils ont trouvé amusant de continuer. Les autres s'appellent Xal, Xela, Lexa, Xael, Xéal, Exla et Léax.
Oh,
eh oui, on embrasse les flamands. Égalité. Ah, j'aime bien quand c'est l'égalité entre Dave et Eva pour une fois. Comme ça, vous n'êtes pas tout à fait ridicule. C'est très bien.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipé sauvage.
Il est 16h24 et dans l'équipé sauvage, il y a toujours une place pour la bonne chère, la gourmandise. Mathieu Noël, Eva Rock et l'invité ici, Pascal Obispo, sont prêts à prendre des notes. Délice in extremis, c'est l'heure de la recette d'Olivier Pouls.
Il a un seul défaut, Olivier. Il commence l'apéro assez tôt. Il n'était pas 18h30 quand même.
La 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 la.
Alors Olivier, avec quoi vous allez nous sauver la mise aujourd'hui?
Oui, alors si la figue ça vous excite, moi c'est la tomate qui m'excite.
C'est vrai, j'adore ça. Comment allons-nous la concocter?
Eh bien, nous allons faire une tarte à la tomate et c'est pour faire plaisir entre autres à Pascal Obispo, mais aussi à Eva, parce qu'elle m'a dit tout à l'heure j'en ai fait une, elle était très bonne.
Oui, c'était la première fois de ma vie cet été que j'en faisais une.
Elle devait pas être aussi bonne que celle de Pouls.
Ah bah ça c'est sûr. Et
surtout que les tomates, c'est en ce moment qu'elles sont vraiment les meilleures de l'année, c'est les tomates tardives, celles qui sont les plus mûres. Et moi je vous propose de faire une tarte à la tomate, mais des tomates cerises, c'est des petites tomates.
Ah oui.
oui, c'est bien. C'est
original.
Moi, je préfère les tomates cerises.
Ouais. Ben voilà. Mais c'est casse-pied à découper, du coup.
Mais vous allez voir, il ne faut pas les découper, ça va être extrêmement simple. Bon, la liste des courses pour commencer.
Dites-nous, on note.
Une pâte feuilletée pure beurre, je ne vous demande pas de la faire vous-même, parce que là, c'est vraiment très compliqué. Donc, vous l'achetez. 2 œufs, un petit peu de crème fraîche, du basilic. Une belle quantité de tomates cerises. On en trouve de toutes les couleurs. Alors, si vous arrivez à les mélanger, c'est encore mieux. Vous pouvez rajouter un petit peu de parmesan et éventuellement une petite cuillère de moutarde. C'est tout ce qu'il vous faut pour cette recette assez visuelle, je dois le dire. Alors, tout simplement, on va utiliser notre pâte feuilletée, on va la pré-cuire, ce qu'on appelle faire une cuisson à blanc. Donc, on la met dans un plat avec un peu de papier sulfurisé en dessous pour qu'elle n'accroche pas. On remet du papier sulfurisé au-dessus et on met des haricots blancs, des haricots secs, de manière à éviter que la pâte ne gonfle. On la met dans notre four à 180 degrés pendant un quart d'heure à peu près, pré-cuisson donc. Pendant ce temps, on prépare l'appareil. Alors l'appareil, c'est les œufs, 2 belles cuillères de crème fraîche, le basilic ciselé, le parmesan et une petite cuillère de moutarde qu'on mélange bien. On pose ça dans le fond de notre tarte et ensuite, sans justement découper les tomates en les gardant entières, on vient mettre nos tomates comme ça, au milieu de notre tarte.
Il y a plus qu'à enfourner. C'est important de faire papap quand on le fait. On est obligé. Ça ne cuit pas pareil.
Il faut le faire absolument.
Mais
bien coller toutes les tomates cerises.
Voilà, au maximum, on essaie vraiment de bien remplir en fonction de ce que vous en avez. Ici, il y a des petits trous, c'est pas très grave, mais on en met le maximum. Et ensuite, on enfourne pendant une demi-heure à peu près dans un four à 180 degrés. Vous avez les tomates qui vont confire l'appareil qui va évidemment se durcir et qui va venir enrober tout ça. Hyper facile, très visuel, délicieux.
Mais c'est simple comme bonjour avec Olivier quand on vous
écoute. C'est ce que vous me demandez tous les jours.
Vous êtes trop fort.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, il est 16h33, vous écoutez l'équipe est sauvage, les moments marquants de la semaine, avec bien sûr Mathieu Noël, sa comparse Eva Rock, les journalistes aussi. La compétition se poursuit avec maintenant Emmanuel Duteil, donc de la rédaction d'Europe 1, qui va tenter de convaincre avec son sujet une consoeur, la présentatrice du JT de TF1 le week-end, Anne-Laure Coudray.
C'est un journaliste dont la carrière ne tient plus qu'à un fil qui s'avance à présent vers le micro. Fébrile comme David Trezeguet avant son tir au but en finale du Mondial 2006.
Oh, c'est là-bas ! C'est pas vrai, c'est là-bas !
Allez Emmanuel Duteil, dites-vous qu'aujourd'hui vous avez un sujet gagnant qui va intéresser tout le monde, le prix de l'essence.
Oui, alors pourquoi le prix de l'essence va augmenter ? Eh bien tout simplement parce que le prix du baril de pétrole s'est littéralement envolé hier. Écoutez ces chiffres, 15% en moyenne. Alors dit comme ça, on pourrait se dire oui, bah pourquoi pas. C'est la plus forte hausse enregistrée par exemple pour le baril de pétrole qui est coté à New York depuis 2008. On regarde aussi ce qui s'appelle le Brent, et là c'est le pétrole de la mer du Nord. Eh bien là c'est tout simple, il n'y a jamais eu une telle augmentation depuis, grosso modo, qu'on a fait ce contrat. Donc là, on est en 1988. Pourquoi ça a augmenté ? On en a beaucoup parlé ce week-end sur TF1, mais également sur Europe 1. C'est le résultat, bien sûr, des attaques sur les installations pétrolières saoudiennes. Et donc, c'est très mathématique. Les prix de l'essence vont augmenter assez fortement. Hein. Une hausse, là, dès aujourd'hui, ça commence, et puis un peu plus demain, 4 à 5 centimes. Alors, vous me dites, c'est peut-être pas énorme, 4 à 5 centimes le litre. C'est 2 euros en moyenne, si on regarde un plein de 40 litres. Ça, c'est pour ceux qui vont faire le plein d'essence, mais pour ceux aussi où ça va coûter extrêmement cher, parce qu'on arrive dans la période, c'est pour les cuves de fioul. Là, ça concerne quand même énormément de gens, et pour certains, c'est des gens qui n'ont pas obligatoirement beaucoup de moyens.
Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment ça peut être aussi direct, Emmanuel ? On a toujours l'impression que les hausses sont plus vite répercutées que les baisses.
Effectivement. Alors, c'est là aussi assez mathématique parce que les prix sont appliqués en fonction, là aussi, des prix qu'il peut y avoir sur les marchés. En l'occurrence, c'est le marché de Rotterdam qui est important pour l'Europe. C'est là où véritablement le pétrole que l'on utilise est coté. Et donc, il est coté chaque jour. Quand vous allez faire votre plein tous, ce que l'on peut en être, on se rend bien compte que ce n'est jamais le même prix d'une journée sur l'autre parce que les prix changent tous les jours. Donc, c'est pour ça que là, directement, les prix vont augmenter. Alors, comme vous le dites, Mathieu, on a toujours l'impression que ça monte, mais que ça ne baisse pas. Ça commence à être relativement faux, puisque, notamment grâce ou à cause de la crise des gilets jaunes, je peux vous dire que même des enseignes comme Total, maintenant, ils font gare à bien répercuter les baisses. Et puis, surtout, ils sont obligés, parce que les grands distributeurs, les Leclerc, les Intermarché, les Super U, c'est un produit d'appel pour eux, l'essence. Et eux, je peux vous dire qu'ils répercutent les hausses et les baisses tout de suite, parce que tout simplement, ils ne font pas de marge sur l'essence. C'est grosso modo tout le temps à prix coûtant. Et ils représentent aujourd'hui, ces grands distributeurs, environ 60 à 70% de l'essence que l'on consomme en France. Donc, Si vous êtes Total en face, si vous êtes Shell ou autre en face, bah vous êtes bien obligé de répercuter la baisse parce que votre concurrent va, lui, le répercuter. Vous allez perdre des clients.
Mais Emmanuel, vous venez de dire, les automobilistes sont très taxés en France. Mmh. Pourquoi on ne peut pas tout simplement baisser un petit peu ces taxes ?
Oui, les taxes, c'est 60% du prix de l'essence. Hein. Le vrai prix du pétrole en tant que tel quand on l'achète, c'est 30% du litre d'essence, puis 10% environ, c'est le raffinage. Alors, il suffit de voyager un petit peu. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour se rendre compte qu'on paye beaucoup plus cher l'essence en France. Vous allez en Espagne, en Belgique, au Luxembourg. Tiens, justement, il y a un ancien ministre du budget qui m'avait confié il y a quelques années qu'il allait acheter ses cigarettes au Luxembourg et qu'il en profitait le week-end pour faire son plein d'essence parce qu'en France, c'était trop taxé. Il était ministre du budget. Il pouvait donc agir. Et effectivement, les ministres peuvent agir. Et je peux vous dire qu'en ce moment même, au gouvernement, ils sont en train de regarder parce qu'ils vont regarder un petit peu la durée. Si ça continue d'augmenter sur une longue période, là, ça va véritablement poser problème. Et donc, oui, ils pourront à ce moment-là baisser les taxes. Il existe des mécanismes, ce serait temporaire, mais pour le moment, ils essayent un peu de se rassurer en se disant, et c'est vrai qu'il faut qu'on remette ça un peu dans le contexte, l'essence n'est jamais qu'au prix de cet été. On est très très loin des records que l'on a pu connaître ces dernières années. Ce qui est complètement historique et exceptionnel, c'est la rapidité de la hausse que l'on a pu connaître. Et ça aussi, c'est quand même inquiétant. Et ça pourrait expliquer que le pétrole va continuer à progresser dans les années à venir, parce que tout le monde maintenant se rend compte qu'il peut avoir un risque géopolitique gigantesque autour de l'Arabie Saoudite. Et c'est finalement ça le plus inquiétant pour nous, un consommateur, demain.
Emmanuel Dutheil, regardez-moi dans les yeux. J'ai envie de vous appeler Manu aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire...
Si tu... Bravo, tu as gagné.
C'est vrai que ça
les gens n'ont pas encore voté, mais je ne sais pas pourquoi cette chronique, par sa qualité, par sa profondeur, par son côté concernant, me semble bien parti.
Alors, je peux dire un mot parce que vous m'avez séché, pas de prompteur, vous avez quasiment pas regardé vos feuilles, vous avez vécu votre chronique physiquement avec votre corps. Bravo.
16h-18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
Et on retrouve Mathieu Noël entouré de son acolyte Eva Rock, toujours, et d'un invité ici. Il s'agit de l'ancien champion du monde et olympique de natation Yannick Agnel et d'un journaliste en compétition, puisque je rappelle que dans l'équipée sauvage, les journalistes d'Europe s'affrontent pour le titre de chroniqueur du jour et c'est au tour maintenant de Nicolas Caro.
C'est un combattant dans l'âme qui n'hésite pas à mettre la pression sur ses concurrents, comme à Angèle tout à l'heure.
Je vais t'exterminer.
Nicolas Caro a en commun avec vous, Yannick, une passion pour l'élément aquatique. D'ailleurs, ne le branchez jamais sur le sujet, vous y seriez encore demain.
Je voulais être amiral, mais ça s'est loupé. Amiral dans la marine, et puis après Nicolas. Je me suis dit que c'était la guerre, donc j'ai dit capitaine de marine marchande.
Oui, non, on s'en fout, Nicolas. Finalement, journaliste. Nicolas Caro, vous êtes notre expert littéraire. Focalisez-vous sur une chose, la victoire. Avec quel sujet allez-vous nous surprendre aujourd'hui?
Alors donc... Quel est le point commun entre les vieux mythes, la mythologie, la légende du roi Arthur, le Seigneur des Anneaux et Star Wars? Eh bien, c'est la même histoire. En 1949, Joseph Campbell, un prof d'université, grand spécialiste des mythes, publie « Le héros aux mille et un visages ». Il explique qu'en fait, on raconte toujours la même histoire. Sa théorie s'appelle le monomythe. En fait, on a tellement intégré les vieux mythes qu'inconsciemment, on les reprend toujours. On change évidemment les personnages, les situations, c'est pas toujours la même chose, mais on y revient toujours et on suit le même schéma narratif, la même trame, si vous voulez, et je vous la donne. Comme si vous aviez une carte qui marche à la fois pour Paris et Dakar. Le héros, en général, au début, vit tranquillement, à l'abri des péripéties. Il s'ennuie un peu même éventuellement. Et voici la première étape, c'est l'appel de l'aventure. Un événement qui sort le héros de sa petite vie, de sa routine, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Frodo doit quitter la paisible comté pour cacher l'anneau. Idem pour Arthur, idem pour Luke Skywalker. Et tout ça se fait
Qu'est-ce
grâce...
qu'il fait Luke Skywalker au début de Star Wars? Igland, je me souviens pas.
Igland, vous savez, il est chez son oncle et sa tante jusqu'à ce qu'il y
ait... Ah oui, il est pépère, effectivement.
Tout ça, ça se fait grâce à ce que Campbell appelle l'aide surnaturelle, c'est-à-dire l'intervention d'un vieux sage. Ça peut être Gandalf, ça peut être Merlin, ça peut être Obi-Wan Kenobi. J'ai pris ces trois exemples, ça marche pour tous les sujets, même les trois mousquetaires, il y en a plein. Citer n'importe quelle histoire, ce serait la même chose. Il y a l'aide surnaturelle, donc c'est cette intervention du vieux sage. Puis, le passage du premier seuil, ça c'est une fois qu'il est parti, le héros qui entre de plein pied dans l'inconnu, dans le danger, dans l'aventure. C'est un point de non-retour, là, il est engagé, il peut plus s'en aller.
La rencontre avec Porthos, Aramis, le duel.
Par exemple, effectivement, là, il est obligé d'aller au duel.
Je suis bien, hein,
pour
votre
une question
cours.
D'honneur. Voilà. Et de toute façon, comme dans Frodo, qui est poursuivi par les forces de Sauron, il ne peut plus reculer. Voilà. Mais
à ce moment-là, le héros, il est encore malhabile. Il ne sait pas trop faire. Il a du potentiel, mais il apprend. Comme dans Star Wars, vous savez, il a la puissance, la force, mais il ne sait pas la maîtriser. Voilà, il va falloir l'apprendre. Et voici le temps de l'initiation, le chemin des épreuves, la maturation du héros, c'est-à-dire la formation. Il faut s'entraîner, il faut s'exercer, il faut tomber. Il faut connaître l'échec pour ensuite se relever et être de plus en plus fort. Ensuite, c'est la réunion au père. Ça, c'est un concept un peu psychanalytique. Ça peut être très symbolique. Hein. Ce n'est pas forcément le vrai père comme dans Star Wars avec Dark Vador. Puis, il y a l'apothéose. Ça, c'est l'épreuve suprême. C'est le boss de fin. Et c'est l'accomplissement de la quête. Et ensuite, il y a le retour. C'est-à-dire qu'il revient dans le monde ordinaire, mais il a changé, évidemment. Il est parti en quête d'un objet ou d'une mission, mais aussi en quête de lui-même, n'est-ce pas ? Et le héros n'est jamais tranquille complètement une fois de retour, puisque, en général, on le rappelle pour reprendre du service, comme dans Star Wars, l'épisode 7, etc.
Nicolas Carreau, j'ai adoré cette chronique. Eva Rock voulait intervenir.
Mais oui, parce que ça ressemble un peu au parcours de Yannick Agnel et au parcours de votre héros, Yann, votre roman jeunesse que vous avez signé avec Pascal Ruther chez Hachette Roman. C'est un peu ça aussi.
Mon parcours personnel un peu moins, celui du roman beaucoup plus.
Ouais. Parce qu'il est romancé justement selon ces recettes que Joseph Campbell a énoncées, découvertes et qui fonctionnent pour tout, jusqu'à... Aujourd'hui, Avengers, j'imagine.
Eh bien, tous les super-héros, effectivement. Alors, pas les Avengers, parce que quand on rencontre les Avengers, ils sont déjà tous des super-héros.
Ah, c'est vrai. Donc, il manque une étape.
Mais pris individuellement, c'est exactement le même schéma pour tous. Ils sont tous tranquilles au début. On vient les chercher. Il y a l'intervention d'un sage ou d'un maître. Et puis ensuite, ils rentrent dans l'épreuve. Et puis ensuite, ils se forment. Et puis ensuite, ils reviennent.
Fabuleux, Nicolas Carreau. Très, très bonne chronique. Mais néanmoins, vous le savez, vous n'y couperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Ah, Angèle Châtelier vous a écouté.
Et elle jubile.
Elle n'est pas convaincue visiblement par votre chronique.
J'aimerais savoir, Nicolas Carreau, qui a composé le générique de Star Wars.
C'est John Williams.
Oh, bon, c'est ça. Mais c'est facile. Vous n'allez pas le piéger comme ça, Angèle.
Ouais,
vous
êtes trop chou. Je vais travailler.
Vous êtes trop chou.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Ou les moments marquants de l'équipe est sauvage. Oui, ça se passe comme ça le week-end. Il est 16h51. On retrouve donc Mathieu Noël, Eva Rock, sa complice, et une personnalité médiatique qui joue un petit peu le rôle d'arbitre dans cette compétition qui, je rappelle, fait s'opposer les journalistes d'Europe 1. Et elle était invitée cette semaine, la journaliste Anne-Claire Coudray.
Bon, Anne-Claire Coudray, notre invitée qui présente le JT de TF1 le week-end, doit connaître ça. Vous êtes à TF1 depuis 15 ans.
Effectivement,
ça
mais...
Ça toujours être facile quand même. On dit souvent qu'il y a beaucoup de pression à TF1.
Alors non, on dit souvent que c'est une rédaction assez à taille humaine et donc assez apaisée. Non, non, je pense que... Voilà, moi de toute façon, je suis très claire sur ce point-là. Hein, le jour où ça ne fera plus l'affaire, j'aurai une autre vie, j'ai eu une autre vie avant. Et du coup, je pense qu'on est beaucoup plus apaisé aujourd'hui que peut-être qu'avant parce que voilà, les carrières sont aussi beaucoup plus chahutées, riches.
Justement, une question qu'on se pose quand on occupe le fauteuil de présentateur du JT, est-ce que c'est un poste qu'on peut quitter ou on est forcément démissionné? De mémoire, il n'y a que Christophe Ondelat qui a quitté un JT,
oui,
non enfin...
c'est un poste très contraignant, donc on peut en être fatigué au bout d'un certain temps, mais c'est vrai que c'est un poste addictif aussi et qui se bonifie en plus avec l'âge, c'est-à-dire que vous progressez sans cesse. Ça met énormément de temps, il faut en faire et en faire et en faire avant de redevenir ce que vous êtes, redevenir naturel, et donc moi je n'en suis pas encore là, et donc j'espère que ça durera encore un peu, mais c'est aussi un poste qui est très lié à l'amour ou au désamour des téléspectateurs, et je pense qu'au bout d'un moment, il faut accepter aussi qu'ils aient envie d'autre chose. Donc voilà, là j'ai l'air philosophe, ce sera beaucoup plus difficile quand ça arrivera, mais je crois que voilà, il faut accepter ça. Et encore une fois, moi j'ai eu une vie professionnelle très heureuse avant, et je me dis que je serai capable d'en avoir une après.
Anne-Claire Coudray, vous présentez les journaux du week-end sur TF1. Est-ce que de temps en temps, Claire Chazal vous passe un petit coup de fil pour vous débriefer votre prestation?
Non, ça n'arrive pas, mais on a de très bons rapports. On n'est pas amis, mais on a de très bons rapports parce que mon rédacteur en chef a été le sien. C'est un de ses amis, et donc j'ai des nouvelles régulièrement. Et c'est ça le secret de la transition entre elle et moi. C'est qu'elle l'a fait très bien, et elle m'a rendu un grand service. Je je l'en remercie.
Il faut dire que Claire Chazal est une femme délicieuse, Eva.
Élégante ouais. et délicieuse, ouais. effectivement.
Chaque week-end, on vous retrouve donc aux commandes du JT de TF1. Mais on le disait, vous venez du grand reportage, du terrain. Vous vous êtes déjà rendu, j'imagine, dans des zones à risque.
Oui. Je suis allée en Côte d'Ivoire, je suis allée en Irak, je suis allée sur des catastrophes naturelles. Enfin,
Haïti,
voilà,
au moment du tremblement de terre
d'Haïti. C'était d'ailleurs ma première expérience
traumatisante.
C'est là où vous apprenez que si vous restez un observateur, vous vous sauvez de pas mal de choses. Mais effectivement, beaucoup de journalistes avaient eu du mal à supporter... ces 200 000 morts, cette détresse. Et c'est en ça que je dis que ce métier, il vous apprend beaucoup de choses sur vous-même. Parce que comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous savez rester dans votre rôle ou est-ce que vous laissez envahir par cette émotion? Enfin, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce genre de terrain difficile, pour savoir ce que je valais, est-ce que j'avais du courage? Où étaient mes limites? Est-ce que j'étais une tête brûlée ou est-ce que j'arrivais à gérer ce risque? Ça, c'est aussi très important.
Et ça vous a aidé, j'imagine, à vaincre cette fameuse timidité qui est loin
Exactement.
Derrière vous aujourd'hui. Anne-Claire Coudray, femme de terrain, et nous sommes en mesure de le prouver avec un témoin surprise. Faites entrer un des grands reporters de l'Europe 1 qui nous rejoint, c'est Didier François.
Ah oui, on était au Mali
et voilà.
ensemble, on a pris quelques
Bonjour
petits
Didier
déjeuners.
François.
Et alors, il connaissait par cœur les rations de l'armée et donc il nous indiquait quelles étaient les meilleures. Comment faire un bon porridge le matin dans un fond de bouteille, c'était voilà.
Alors,
le grand reporter par excellence.
Anne-Claire Coudray sur le terrain.
Bah oui, c'est parti les nôtres, il n'y a vraiment aucun souci. Bah, tu viens de le raconter, mais notre dernier reportage en commun était au Mali, au moment de l'opération Serval. C'était la prise de la libération de la ville de Gao, où il y avait encore des cellules djihadistes. On a même eu droit à une contre-attaque assez violente sur le commissariat et dans
et
le centre-ville
mairie.
Et la mairie.
Mais expliquez-nous, parce que là, tous les journalistes sont en même temps, parce que vous n'étiez pas à Europe 1, vous étiez
non,
à TF1,
non, non, non.
Europe 1.
Alors, comme toujours sur les zones de guerre, il y a des moments et des lieux qui sont un petit peu dans l'actualité, parce que c'est là que se passent les batailles, c'est là que se passe la progression. Qui plus est, là, c'était quand même une progression lourde au sein du désert. On était parti aussi sur Tombouctou et puis après dans les Iforas. Donc on est sur des élongations très forte, en pleine zone de combat avec des djihadistes très présents qui cherchaient quand même un petit peu aussi à attraper du journaliste par-ci par-là. Et donc effectivement, on suivait les opérations de l'armée française. Il y avait une opération héliportée montée par les forces spéciales pour prendre le pont, pour rentrer dans la ville de Gao et libérer la ville de Gao. On est arrivé avec Anne-Claire et quelques autres camarades. On avait nos propres voitures. Alors, il faut voir comment c'était. Enfin, on louait des 4x4 à Bamako. On achetait des pneus parce que dès qu'on crevait, il fallait pouvoir changer les
roues. De l'essence, suffisamment d'essence pour pouvoir tenir. Ouais.
Exactement, des litres d'essence, de l'eau en bouteille qu'on met, puis vaguement de quoi manger, parce qu'il y a toujours pareil, on prend vraiment ce qui est vraiment le plus utile.
Et on ne s'arrête pas sur la route.
On n'a pas de choix, donc il faut y aller.
Vous avez peur lors de ce reportage, tous les deux?
Ça arrive régulièrement d'avoir peur, oui. Après,
ou sinon,
il faut
inconscient,
limiter la peur.
Pas
oui,
peur.
Bien sûr,
après,
bien sûr.
Il faut
bien
surmonter
sûr.
Sa peur. Et là, effectivement, donc, à un moment, il y a une contre-attaque assez violente des djihadistes sur le centre-ville, ce qui a provoqué le déclenchement d'une réaction de la force de réaction rapide par le général qui commandait l'opération française et qui à un moment décidé que comme c'était vraiment risqué alors qu'on était installé dans les petits campements, on avait loué des maisons, on avait
dans
pris
des
une petite cour dans un vieil hôtel abandonné.
Des bons souvenirs aussi visiblement. Hein. On a l'impression ça crée des souvenirs
quand la journée est terrible et que vous avez vu des choses que vous ne vouliez pas voir et que vous avez eu peur, effectivement, le soir quand vous vous retrouvez dans un endroit à peu près safe, vous décompressez, ça c'est normal.
Et donc ils nous avaient regroupés dans un espèce d'immense hangar de l'aéroport où il y avait des avions cassés, des moteurs qui traînaient, des vieilles carcasses de voitures.
On avait dormi sur des palettes.
Ensemble, scoop en repas.
On était tous ensemble. Il y a vraiment strictement aucun souci.
Les amis, je vous laisse vous faire des bisous pour fêter ce beau souvenir et vous raconter peut-être entre vous les offs de cette opération, tout ce que vous ne pouvez pas dire, puisque je ne sais pas si vous étiez vraiment tous ensemble.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et l'équipe est sauvage avec Mathieu Noël revient juste après les infos de 17h. La compétition se poursuivra avec notre monsieur cinéma Mathieu Charrier qui parlera des films érotiques de Francis Ford Coppola. Avec Angèle Châtelier, on parlera des liens qui unissent les jeux vidéo à la musique. Anissa Mbida nous alertera sur un nouveau phénomène qui frappe les salles de classe. Notre correspondant de l'Est, Arthur Elmbaché, évoquera une expérience orgasmique. Et puis Axel de Tarlé nous dira pourquoi l'or est devenu un placement important. Autant de sujets passionnants à découvrir jusqu'à 18h.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
En attendant, on continue à se divertir tout en se cultivant avec son équipe sauvage Mathieu Noël et sa complice Eva Rock nous embarquent pour 2 heures de bonne humeur, 16h-18h tous les jours. Et je rappelle que du lundi au vendredi, les journalistes d'Europe 1 s'affrontent dans une compétition. Un seul est élu chroniqueur du jour, celui ou celle qui nous aura offert l'info la plus surprenante, la plus édifiante. Vous votez pour cela, l'invité aussi, son vote compte triple, on le rappelle. Et puis le week-end, eh bien, on vous remémore les bons moments. Alors la compétition va se poursuivre maintenant avec notre monsieur cinéma, Mathieu Charrier. Il est face au comédien Alexis Michalik.
Si vous continuez à vous foutre de ma gueule, c'est le guichet du Pôle emploi spectacle qui vous attend en fin de saison. 4 journalistes qui se sont surpassés pour vous offrir la...
Non, surpassés.
Ta gueule. Mais je sens que cette émission déjà sanglante pourrait l'être encore plus en saison 2 au Prud'homme.
Mais c'est pour vous que je fais ça.
Je sais, pour m'améliorer. Voilà. Mathieu Charrier, puisque vous êtes là, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Je vais vous parler du premier film et d'un aspect assez méconnu du film érotique de Francis Ford Coppola. Vous savez, cet homme aux 2 palmes d'or, Apocalypse Now, Conversation secrète, l'homme qui nous a offert Le Parrain, l'homme qui va recevoir d'ailleurs le prix Lumière à Lyon lors de la prochaine édition du 12 au 20 octobre, le grand Francis Ford Coppola.
Et qui fait aussi un vin pas dégueu. Ah, je tiens à préciser, Alain Siraud me fait pouce en l'air, avec modération évidemment, chers amis, mais c'est une belle petite cuvée.
Et donc avant de faire tout ça, figurez-vous qu'il a tourné des films érotiques. On repart un petit peu en arrière, on est en 1961, Coppola est étudiant en cinéma à l'université de UCLA à Los Angeles, et comme beaucoup d'étudiants en cinéma, il n'a pas un sou en poche. Un jour, il entend parler d'une nouvelle mode qui commence à se répandre, celle des nudies, des films érotiques, où il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler, mais des filles qui ont une légère tendance à se dévêtir. Il se dit, tiens, et pourquoi pas moi finalement?
Et il tourne son premier film érotique.
Exactement, qui s'appelle The Peeper. C'est un court-métrage qui raconte, écoutez bien, l'histoire d'un mec qui espionne un photographe.
Il faut préciser que to peep en anglais, ça veut dire espionner. Voilà, plutôt que, hein, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible.
Il espionne donc un photographe de nu pour surtout apercevoir ses modèles. Alors évidemment, quand les camarades de classe de Coppola apprennent tout ça, il est moqué partout, sauf un, Jack Hill, qui lui présente alors un producteur de films porno. Et ce dernier lui propose un deal. Il va réaliser son premier long métrage dans lequel il a le droit d'intégrer son court métrage. Le projet déjà prêt, c'est déjà écrit. C'est l'histoire d'un cow-boy qui, suite à un choc, voit des femmes nues partout. C'est très recherché comme histoire.
C'est pas mal.
Coppola accepte. Et le pire, c'est qu'il va même demander à son père d'en composer la bande originale. À l'époque, Carmine Coppola, il était chef d'orchestre à Baudruy. Et comme on ne peut rien refuser à ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte. Beau travail familial.
Mais Coppola, il n'a pas tout fait ensuite pour faire oublier ce
film? Non, pas du tout. Au contraire, il est même crédité comme étant le premier film de Francis Ford Coppola en tant que réalisateur. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia.
C'est
d'ailleurs,
vrai,
ouais, c'est noté. Le film s'appelle Tonight for Sure, traduit en français par L'Ouest sauvage et nu. C'est joli aussi comme titre. Et le pire, ou le mieux d'ailleurs, c'est que le résultat était concluant. Un autre réalisateur lui confie un nouveau projet porno dans lequel il va mettre un petit peu de 3D, c'était quand même déjà Coppola à l'époque. Et un soir, dans la salle, en train d'assister à cette projection, un certain Roger Corman, qui produira le premier film sérieux du réalisateur, Demencia 13, qui va lancer sa carrière. Donc Francis Ford Coppola peut dire merci au film porno. Et je vous conseille au passage un excellent article qui raconte tout ça avec encore plus de détails dans le dernier numéro de ce film.
Ah, et voilà. Ben c'est important de signaler et de citer effectivement nos confrères. Alain Siraud, je crois que vous avez... une petite question vache.
Oui. Oui, Mathieu a parlé d'Apocalypse Now, évidemment, qu'on revoit aujourd'hui d'ailleurs dans une version réalisateur. Savez-vous, Mathieu, quel a été le premier réalisateur qui a été imaginé pour Apocalypse Now et qui lui a préféré d'ailleurs le ciel pour le compte?
Qui lui préfère
Il est mort, c'est ça?
Non,
c'est une.
Non, c'est George Lucas. C'est...
Oui,
qui devait faire Apocalypse Now, absolument, et qui a préféré la guerre des étoiles.
Vous êtes sûr
et
de ce que vous avancez?
Oui, et ça leur a valu une fâcherie tous les deux, Coppola et Lucas, pendant quelques années. Ils se sont réconciliés aujourd'hui.
Alexis Michalik, les grands cinéastes comme Coppola.
J'ai eu peur. Non, pardon, je croyais que vous aviez
Alexis Michalik,
si
vous avez refusé le tournage d'Apocalypse Now, mais vous avez bien surbondi.
Effectivement proposé.
Non, je voulais vous demander si le cinéma était une source d'inspiration ou si l'écriture pour le théâtre est vraiment tellement différente qu'on ne peut pas s'inspirer d'un univers cinématographique.
Moi, bien sûr que c'est une source d'inspiration. Surtout les réalisateurs scénaristes à la Christopher Nolan, Iñárritu, qui tordent un peu l'espace-temps, la narration. C'est pour moi Memento, que c'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, où l'intrigue est montée à l'envers. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est génial de faire ça, ou 21 grammes, enfin tous ces films où la narration n'est pas linéaire, c'est clairement ce qui m'a inspiré les spectacles pour ceux qui ne les ont pas vus, où effectivement la narration part un peu dans tous les sens et finit par faire sens à la fin.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
Il a abandonné les bassins sans pour autant quitter le milieu sportif. L'ancien champion de natation Yannick Agnel était l'invité de Mathieu Noël cette semaine sur Europe 1. Il doit maintenant... être convaincu par le sujet d'Angèle Châtelier de la rédaction d'Europe 1. Et oui, l'équipe est sauvage, c'est aussi de l'info.
La plus rock des journalistes d'Europe 1. Angèle, comme vous voulez les trois points de l'invité, vous avez décidé de nous parler de l'influence c'est des ça. Jeux vidéo, passion numéro 1 de Yannick Agnel, sur la musique, passion numéro 2 de Yannick. Je dis bien joué d'avance, mais je demande quand même à voir.
Oui, c'est à pas vous. À vous Yannick Agnel que je vais vanter les mérites que peuvent avoir les jeux vidéo, puisqu'on le rappelait, vous êtes directeur sportif d'une équipe de e-sport, alors autant dire que ça vous connaît. Mais savez-vous les liens qui unissent les jeux vidéo et la musique? Tiens, prenons Flavien Berger, un artiste audacieux, intrigant, qui présentait il y a quelques mois ses albums Contretemps et Radio Contretemps.
On m'a dit, on ne s'entend pas, tu es muette, interdite.
Alors Flavien Berger, il a commencé par tâtonner, par chercher des bruitages, des tonalités sur Musique 2000, un jeu sur PlayStation dont l'idée est de placer des blocs de couleurs pour faire des sons. Au magazine Les Inrocks, d'ailleurs, il raconte même que ses productions étaient parfois beaucoup trop lourdes pour être sauvegardées. Ce logiciel a façonné sa musique d'aujourd'hui et on l'entend d'ailleurs. Et puis si je vous fais écouter ça, peut-être que ça vous dit quelque chose.
On me rappelle ma dernière fois chez Eva. On avait pris des trucs, je me souviens pas de tout.
Voilà, c'est Crank That du rappeur Soulja Boy. C'est un morceau qui a été créé sur Fruity Loops, aujourd'hui devenu FL Studio. C'est un logiciel majeur de MAO. La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Fruity Loops n'avait pourtant pas vocation à créer des tubes. Il a été fondé par Didier Golgambin à la fin des années 90. Lui, il travaille à ImageLine. C'est une entreprise qui crée des jeux vidéo érotiques. Voilà.
Mais je connais pas du tout.
Mais c'est ça, ouais. Son idée avec Fruity Loops, c'était de créer un logiciel pour les gens qui ne sont pas musiciens, comme Nicolas Caro par exemple. De nombreux tubes sont nés aujourd'hui grâce à Fruity Loops, qui était très intuitif et facile d'accès à sa sortie.
Mais on peut aussi parler, s'il vous plaît, de Guitar Hero, ce jeu où on a une fausse guitare et où on reprend des tubes avec.
Ça.
Comment
c'est
ça, c'est nul? Bah, écoutez, on parlait au champion de France, donc s'il vous plaît, Guitar Hero, c'est super.
Oui, mais j'aimerais surtout parler de FIFA, vous connaissez évidemment.
Ah, ça.
Évidemment, célèbre jeu de football. Alors le but n'est pas de créer de la musique sur FIFA, ça se saurait, mais il mérite qu'on s'attarde sur sa BO qui est plus soignée.
Angèle, faites gaffe parce que Mathieu Noël, il connaît tout sur FIFA, il a été champion du monde, je sais pas trop quoi.
En niveau légende, 5 fois champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille, et ça, c'est pas près d'arriver dans la réalité. Hein,
je pense que la musique y est pour beaucoup. Il y a ça par exemple, Kid de MGMT, c'était sur FIFA 9. Il y a aussi du Gorillaz, du Fatboy Slim, du New Order, des indispensables du rock et maîtres du genre. Alors j'ai quand même dû moi me renseigner auprès de mon entourage pour savoir où la musique est diffusée dans le jeu, parce que je savais pas.
Si. Dans
il
dans
paraît que c'est au menu.
On passe son temps
dans le menu.
Vous savez, on passe son temps dans les menus à échanger des joueurs,
voilà.
À acheter des joueurs. À... Bah oui.
Mais pendant qu'on joue un match, il n'y a pas de musique.
Il n'y a pas les chants de supporters, non?
Oui aussi.
Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est de quoi découvrir des groupes tout en savourant ses victoires ou ses échecs sur FIFA.
Merci beaucoup, Angèle
Yannick Châtelier. Yannick Agnel, embauché Mathieu Noël.
Non, ça serait horrible de jouer contre ces joueurs, ils me défonçaient. Alors moi contre l'ordinateur, contre la PlayStation, je gagne. Ça me va très très bien. Nicolas, comment vous avez trouvé Angèle, franchement?
Moi, un peu malsaine aussi.
Merci.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Et les moments les plus marquants de la semaine avec Mathieu Noël et son acolyte Eva Rock. Il y a toujours un invité. On va retrouver Alexis Michalik, dramaturge, cinéaste, comédien et désormais écrivain. Il était venu nous parler de son premier livre, Loin, nommé pour le prix Renaudot.
Eva Rock, vous l'avez lu pour nous. Je veux maintenant non pas le pitch, mais la critique du livre.
Mais je vous l'ai dit.
Vous êtes un brouillon de culture et vous nous dites ce que vous en avez pensé.
Aïe.
J'ai beaucoup aimé, sincèrement, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai aimé prendre le temps de le lire en fait, parce qu'on dit 650 pages.
C'est important
pages.
Pour un livre, ça, c'est vrai que c'est le premier conseil qu'on peut donner aux auditeurs.
Essayez. Aller jusqu'au bout, déjà.
Je suis allée jusqu'au bout, évidemment, et j'étais très heureuse de voir l'arbre généalogique à la dernière page, parce que ça m'a remémoré en fait tout le roman, sincèrement. Donc j'ai aimé ça. Quand je dis je prends le temps de lire, c'est-à-dire que vous pouvez le refermer et le reprendre, vous avez un tel attachement aux trois héros principaux qu'en fait vous n'êtes jamais perdu.
Moi, pour être honnête, je n'ai que commencé à le lire parce que malheureusement, j'ai pris cette édition qui prend un peu de temps.
Je vous le conseille.
Mais c'est un page turner, c'est-à-dire que le roman
les trois premières pages sont super.
Les trois premières pages sont monstrueuses. Non, j'en suis plus loin, mais ça se lit vraiment extrêmement facilement.
Vous plaisantez avec vos histoires de trois premières pages, mais rien que le premier chapitre, il faut lire ce premier chapitre qui est un condensé d'humour et de réflexion philosophique sur le voyage, pourquoi on voyage, qu'est-ce qui nous pousse à partir, est-ce que le voyage intérieur c'est pas plus mal, pas plus facile et pas plus mal que partir à des milliers de kilomètres. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai gardé mon âme d'enfance pendant 650 pages et rien que pour ça, je vous en remercie.
Un roman, c'est le premier en revanche au théâtre. Alexis Michalik, vous êtes l'enfant prodige. À seulement 36 ans, vos pièces sont des succès immenses. On est allé le vérifier dans la rue. C'est pourtant rare, un auteur de théâtre contemporain connu. Hein, il n'y en a pas 36, en fait, il y a vous.
Alexis Michalik.
Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il écrit des pièces, je trouve, qui sont originales et qui sortent des rails.
Il est né en 1982.
Wikipédia. C'est quelqu'un qui vous emmène au théâtre dans un monde magique. C'est vraiment l'espèce de petit génie, c'est ça, de magicien de la scène.
C'est un cuisinier, un pâtissier. Et c'est aussi un joueur de rugby. Il y en a deux.
Dans une petite scène quasiment sans décor de 3 mètres carrés, il vous fait vivre trois endroits.
Alexis Michel.
Et en fait, il nous emmène dans des espèces de lieux qu'on imagine alors qu'il y a juste un tapis par terre et trois comédiens.
Alexis Michalik.
Ah voilà, le cercle des illusionnistes que j'ai vu dernièrement. Et il y a Edmond que j'ai vu aussi. Donc je suis une fidèle.
C'est super rare que le nom d'un auteur de théâtre
mais
soit...
C'est vrai, ça, c'est des vrais micro-théâtres.
C'est des vrais gens. Alors, incroyable. Dans la rue, on ne vous arrête peut-être pas parce que physiquement, les gens ne vous en pas. Mais par contre, les gens connaissent votre nom. Le nom, Michalik, ça résonne vraiment.
Alors, c'est vrai qu'on a fait le micro-trottoir à Paris, donc peut-être c'est plus facile parce que vos quatre pièces se jouent effectivement dans les théâtres parisiens.
En face d'une des pâtisseries de Christophe Michalik.
Est-ce que c'est des pièces qui peuvent partir en tournée? Je pense à Edmond, où il y a beaucoup de comédiens.
Moi, j'étais très surpris en faisant la tournée du film Edmond, en faisant une tournée d'avant-première, de voir qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle qui connaissaient les pièces aussi, parce que les pièces tournent beaucoup en France, en fait. Donc, il y a plein de villes où les gens ont vu plusieurs des spectacles et les suivent avec attention. Je trouve ça incroyable, quoi.
Vous avez un côté assez cash sur la dimension économique du théâtre. Beaucoup d'artistes se drapent dans leur pudeur de créateur. Vous, non, vous dites clairement que vous ne ferez jamais un spectacle à perte pour le simple amour du théâtre. Il faut que ce soit rentable. C'est essentiel pour vous.
En tout cas, j'essaye. Quand je crée un spectacle, j'ai la peur que les producteurs perdent de l'argent avec le spectacle. Pour moi, à partir du moment où on a réussi à se rembourser, c'est que c'est gagné. Mais c'est l'école avignonnaise du off. Il y a un côté où on arrive au festival off en sachant qu'on est un peu, qu'on a perdu de l'argent. Et le but, c'est d'essayer de revenir à zéro pour pouvoir refaire un spectacle derrière. C'est aussi simple que ça. Et c'est un théâtre sans subvention, du coup.
C'est ce côté du créateur qui met les mains dans le cambouis au départ qui fait que vous avez ce succès aujourd'hui. Vous connaissez tous les métiers du théâtre, en fait.
Oui, de l'artisan créateur, quoi. C'est ça, mais en fait, je me vois plus comme un entrepreneur que comme un artiste parce que c'est vrai que ces casquettes, je les cumule avec plaisir et que tout ce que j'ai appris dans le off, eh ben, c'est de maîtriser la chaîne du début à la fin, de l'idée initiale jusqu'à la com, parce que ben, Avignon Off, c'est un concentré de com. On apprend à tracter les gens, on apprend à remplir notre salle. Et du coup, oui, j'aime bien cet univers-là parce que ça montre que c'est possible de cumuler une exigence artistique et puis en même temps quelque chose qui n'est pas un irréalisme économique non plus.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a 5 ans vous avez fait un burn-out ?
Oui, absolument. C'était juste après les premiers Molières que j'ai eus et j'étais à moitié en tournage, à moitié au Festival d'Avignon, etc. Et puis ouais, d'un coup je me suis réveillé, j'étais crevé, je ne pouvais plus rien avaler et ça a duré comme ça pendant quelques mois et c'était bien parce qu'en fait ça m'a appris à prendre des vacances et c'est mon corps qui me parler, quoi. Et du coup, je me retrouve beaucoup aujourd'hui à croiser des gens qui sont dans ce genre de situation et qui savent pas trop mettre les mots dessus.
Vous
et
leur
dire,
dites,
bah, écoute, je crois que ton corps essaie de te dire quelque chose.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, toujours bien entouré, et Varoc, sa complice, il y a aussi les invités ici. Dave, qui était venu nous parler de son nouvel album, Souviens-toi d'aimer, et bien sûr les journalistes d'Europe 1, qui se sont lancés dans une compétition, c'est comme ça, tous les après-midi entre 16h et 18h. Chacun d'eux doit convaincre, séduire l'invité du jour, justement.
Ne lui déplaise, il fait partie de ces hommes si impressionnants physiquement qu'il pourrait dire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Allez-y, Alice.
Plus les vaches pètent, plus on a d'énergie.
N'importe quoi. Et bien malgré tout, on continue de les trouver formidables. Anice Mida, vous êtes notre expert nouvelle technologie. Et cet après-midi, vous nous alertez sur un nouveau phénomène qui frappe les salles de classe.
Oui, parce qu'après les téléphones portables, après les baladeurs MP3, après les montres connectées, c'est bientôt toutes les montres, même votre vieille toquante à gousset, qui serait interdite d'entrer dans les salles d'examen. Et pourquoi ? Et parce que les dernières montres connectées, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais elles ressemblent comme de 2 gouttes d'eau à des montres traditionnelles.
Ah bon ?
C'est-à-dire qu'elles sont rondes, elles sont extrêmement plates, elles ont des vraies aiguilles, parfois des aiguilles en métal. Par contre, l'écran peut quand même se transformer en écran. Enfin, le cadran peut se transformer en écran.
Et arnaquer les surveillants.
Et donc, ça devient un anti-sèche ultime. On peut mettre des images, mettre des textes à l'intérieur. Et la plupart des montres connectées aujourd'hui sont capables de se connecter à Internet. On peut aller dans les toilettes, recevoir des SMS, même parfois passer des appels directement avec sa montre connectée.
C'est quand même pas très discret. Il reste un moment, la notion de discrétion quand même. Quand on
dans
est
les toilettes, c'est aujourd'hui, c'est devenu un vrai, véritable problème. Donc, les enseignants, beaucoup d'enseignants se posent la question, de surveillants se posent la question aujourd'hui en disant on ne peut pas surveiller toutes les montres, on ne peut pas prendre tous les élèves et vérifier que leur montre est une montre connectée ou pas une montre connectée.
Il faut déposer la
montre.
Donc,
on supprime toutes les montres avant d'arriver dans la salle d'examen.
Et qu'est-ce qu'on risque exactement si on se fait prendre avec une montre connectée ?
Eh bien, on risque. Aujourd'hui, c'est simple, dès qu'on a une montre connectée, dès qu'on vous trouve avec une montre connectée, on considère que vous avez fraudé.
Ah oui, même si on ne sait pas si vous l'avez utilisé. Voilà. Si on oublie qu'on a sa montre connectée, qu'on
si
a deux jours et
qu'on considère que vous avez fraudé. Et quand on considère quand on a fraudé, on peut avoir un blâme, on peut avoir une interdiction de passer un examen de l'éducation nationale pendant 5 ans. On peut aussi être interdit de s'inscrire dans tout établissement public pendant 5 ans. Donc c'est assez grave. Et aujourd'hui, beaucoup de gens oublient qu'ils ont une montre connectée. Pour eux, c'est une montre traditionnelle. Mais évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'avant chaque épreuve, il va y avoir un message qui va être dit « Veuillez bien déposer et vos montres et vos téléphones portables à l'entrée de la salle avant de commencer. »
Il va y avoir des souvenirs à fleurs.
Non, mais c'est parce
là.
Que je sais que Dave est très ami avec Daniel Auteuil et je ne peux pas m'empêcher de
au Soudoué
passe le bac avec. Ils avaient eu des idées farfelues pour pouvoir tricher au bac. Alors, on est bien loin de tout ça avec les montres connectées. Hein.
Ah, ouais,
c'est dommage.
Effectivement. Une autre époque, Eva. Mais vous l'avez eu, votre bac ?
Oui, j'ai eu mon bac, ouais.
Ah, je m'étais toujours posé la question quand je vous avais recruté.
Ouais. Mais j'ai pas eu mention comme vous, voyez ?
Non, mais j'ai pas eu de mention, aussi,
ah,
mais
bon,
très peu. Dave, les études, vous étiez un élève doué ou
J'étais un élève très dissipé, mais en fait, à un moment, j'ai compris que je ne travaillais pas beaucoup chez moi, mais au moins que j'étais très attentionné pendant les cours pour les dernières deux années. Et si on fait bien gaffe aux cours, on peut quand même avancer. Et j'ai eu mon bac, oui. J'ai fait des études de droit pour chanter Vanina, c'est vachement utile.
Vous croyez que c'est utile d'avoir fait Sciences Po pour raconter des conneries au micro ? C'est pareil, chacun son chemin, comme disait tonton David. On a le temps pour une petite question vache de l'autre chroniqueur. Anne, essayez d'être un peu vache, forcez-vous.
Est-ce qu'il n'est pas plus simple quand même, finalement, de construire des salles d'examen dans lesquelles il n'y a pas de réseau ? Pourquoi on en vient à confisquer la totalité des montres ? Ça paraît fou.
Pour deux raisons. La première, c'est qu'en dehors du moment où il y a l'examen, il peut se passer, c'est un instrument pour appeler les secours. Et puis l'autre aussi, c'est que, pour la petite histoire, aujourd'hui, notamment pour le bac, les académies se prêtent des détecteurs d'ondes qui passent entre les allées pour savoir s'il n'y a pas un téléphone portable ou s'il n'y a pas une montre connectée qui est restée allumée. Donc ça existe déjà, mais on ne peut pas fermer l'enceinte et la bloquer aux ondes, tout simplement parce que ça pourrait être des problèmes de sécurité s'il y a un tremblement de terre, s'il y a un accident, s'il y a un incendie, on peut appeler les secours quand même.
En plus, ça ne résout pas tous les problèmes, parce que vous avez le mode avion, même en mode avion, vous pouvez consulter vos notes, par exemple, sur une montre connectée. Donc vous pouvez vous mettre des antisèches et ça revient au même. Et oui, Anne, cette question vache n'était pas assez vache encore.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël et toujours son acolyte et Varoc. Et puis toujours aussi les invités, par exemple Yannick Agnel. Vous savez, l'ancien grand nageur français qui a tout arrêté depuis ses 24 ans. Il est devenu coach de e-sport, c'est-à-dire entraîneur de joueurs de jeux vidéo. Et on retrouve donc Mathieu Noël en compagnie de Yannick Agnel.
Comment devenir numéro un, comme vous l'avez été dans un monde où certains sont prêts à tout, comme on disait, y compris à se doper ? Parce que c'est peut-être une naïveté de ma part, mais quand on vous connaît un tout petit peu, on n'imagine pas un instant que vous ayez pu toucher à des produits dopants. Pourtant, dans la natation, il y a des affaires tous les trois mois sur des gens qui se dopent. Comment on fait pour devenir numéro un ? Vous avez encore un record du monde sur 400 mètres, je crois, en étant complètement clean. À un moment, la question ne se pose pas. On ne vous dit pas, là, il faut prendre un truc ou...
Alors non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, je suppose que ça arrive à d'autres, puisque sur le podium du 200 mètres nage libre à Londres, les deux types qui sont donc derrière moi, deuxième et troisième, ont été chopés après.
Ah, c'est dingue. Et ils ont été chopés, ils étaient derrière vous quand même.
Donc je me suis dit, rapidement, donc les mecs se disent, bon allez, on se charge, on prend le risque de se faire choper, etc. Et en plus, on gagne pas. Bravo les gars.
Ah, vous les avez bien dosés là.
Non, mais en vrai, c'est un gros sujet. J'y étais confronté rapidement. J'ai la chance d'avoir des parents aimants et de bons conseils. Et ce qui est assez dommage, je trouve, c'est que lorsque une des premières pensées qui m'a traversé l'esprit quand j'ai touché la plaque et que j'ai vu que j'étais premier, donc champion olympique, je me suis dit, ah mais en fait, on peut le faire sans être dopé.
On peut le faire sans, voilà.
Ah, vous avez pensé à ça à ce moment-là ?
Ouais, je me suis dit, mais donc en fait, c'est faisable, quoi.
Nicolas Caro.
Est-ce qu'il y a quand même une angoisse pendant les contrôles, même quand on sait qu'on est clean, en se disant, s'il y a une erreur...
Si j'ai pris un médicament, j'ai pris ton Doliprane.
Je sais pas, un truc comme ça.
Non. Ben, on les connaît, les médicaments, une fois. Maintenant, je peux le dire à posteriori, ça m'enlèvera pas forcément mes médailles, mais une fois, j'ai pris un Fervex.
Ah oui, ça c'est interdit.
On parle de Fervex. Hein.
Oui,
donc
ça
reste, je crois, 3 jours dans
après,
les urines, etc. Ouais. Et j'ai appelé l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, en leur disant écoutez, comment ça se passe? Parce que je crois que le truc est dopant, et si quelqu'un vient dans cet intervalle de 3 jours, c'est un peu compliqué. Donc, effectivement, maintenant, depuis 3 ans, là, que j'adore être malade quelque part parce que je me dis tiens,
je peux prendre tout ce que je veux,
des corticoïdes, des machins, c'est génial. Je peux enfin guérir en l'espace de quelques jours, quoi.
Eva Rock a été chargée à l'EPO pendant de nombreuses années.
Vous parliez de vos parents aimants qui vous ont encadré notamment sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez l'impression que les enfants sont confrontés assez tôt à ces problèmes de dopage ?
Bien sûr. Mais évidemment. La natation, probablement pas. Mais oui, je pense que c'est une question d'entourage, d'état d'esprit. Il y a des gamins qui sont prêts à tout extrêmement tôt.
Et s'il y a des parents qui les poussent derrière parfois, qui veulent réussir à travers leur môme, peut-être que ça peut...
Je crois que c'est souvent la question, soit les parents, soit le personnel encadrant, les entraîneurs, etc. S'ils sont prêts à tout, effectivement, pour gagner, même au plus jeune âge, ça finit mal. Et puis après, on a un dopage plutôt d'État.
Oui,
style Russie,
oui.
Peut-être
oui.
En Chine,
oui.
Aussi, oui, etc.
Oui, il y a une affaire
qui là
Chine,
est
oui.
un peu plus compliqué.
Les JO vont avoir lieu à Paris, chez nous. Est-ce que vous comptez vous investir dans cette grande fête du sport ?
Oui, je le fais déjà un petit peu, côté sport et côté e-sport. Si je m'investis plus avant dans Paris 2024, il va falloir que ce soit pas un poste honorifique, mais quelque chose qui a un véritable impact. Donc je suis encore en train d'y réfléchir, on a encore le temps. Malgré tout, c'est quand même dans quelques longues années. Mais c'est chouette.
On pense que Paris va beaucoup changer pour ces JO, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Est-ce qu'il va y avoir de la natation dans la Seine ? C'est
le projet initial, oui.
Vous nageriez-vous dans la Seine actuellement ?
Non.
Voilà, il va falloir la purifier un petit peu d'abord. Hein. Oui.
Je pense que Chirac est beaucoup plus courageux que moi. Mais ouais, l'idée, c'est d'arriver à la purifier. Alors, je ne sais pas trop comment, je ne connais pas trop les procédés, mais à mon avis, il y a pas mal de vannes à couper et d'argent à perdre dans cette histoire. Je pense qu'au final, alors, peut-être que je me ferai contredire dans quelques années, mais je pense que ça sera plutôt du côté du canal Saint-Martin.
Oui, ou le bassin de la Villette.
Le bassin de la Villette, etc.
Effectivement, oui. Où on peut déjà faire un petit peu de bateau. Moi, j'en fais l'été, si jamais vous voulez me retrouver. Vous pouvez me retrouver, je suis là. Eva Rock, vous vouliez ajouter quelque chose plus intéressant que ma réflexion.
Oui, tout à fait. En parlant
ce qui ne va pas être très compliqué.
En parlant des Jeux Olympiques de 2024, est-ce que vous pensez que la natation française sera au niveau ? Parce qu'en ce moment, c'est quand même
pas terrible. Vous manquez un peu.
2024, ça va être long, ça fait un peu loin. Après dire, les gamins, les gamines qui aujourd'hui sont des gamins, des gamines seront peut-être des champions d'ici 4-5 ans, ça va très vite en natation, donc ce serait un peu difficile. Ce que je sais, c'est qu'on a quelques pépites dès maintenant qui pourront faire leurs armes d'abord l'année prochaine et puis ensuite en 2024. Donc difficile de prédire, là on est un petit peu effectivement dans le creux de la vague, mais je pense qu'au lieu de les enfoncer en permanence dans les médias, il faudrait surtout leur donner un petit coup de pouce et les encourager, c'est ce qu'on essaie de faire.
T'as compris Eva, essayez d'être positive un peu.
Oui, je le suis.
Alors Yannick Agnel, les Français se souviennent-ils de vos exploits ou bien sont-ils des ingrats ? C'est ce que nous allons découvrir, non pas avec un micro-trottoir, mais pire, un micro-trottrash. C'est comme un micro-trot, mais il n'est pas monté, on a tout laissé.
Yannick Agnel, à part un nageur, je vois pas.
Il me semble qu'il n'a pas fait le 200 mètres. C'est pas un bon dans le 200 mètres. Je sais pas.
Il était dans le 4x100 mètres, si j'ai bonne mémoire.
C'est un champion, non ? Il me semble, hein ? Médaillé, ouais.
Yannick Noah ?
Non.
Non ? Non, c'est pas Yannick Noah ?
Bah, moi, j'aime bien les voir quand on voit les... Personnellement, je sais pas nager, donc... Mais franchement, je les aime bien.
Yannick Agnel est sportif.
Il est très beau, oui.
Mais mignon. Il est mignon. Hein.
C'est comme Camille.
Camille Lacour.
Camille, elle est beau. Hein.
Il représente la France, donc c'est important pour nous, oui. On est bien représentés avec des beaux gosses, comme on
voilà,
dit.
Voilà, exact.
Ah, tu vois, tu connais, moi, je regarde tout le temps.
Elles sont géniales. Alors,
Yannick, on est entre nous. On est vraiment entre nous. J'aimerais que vous me répondiez sans tabou à la question que je vais vous poser.
Oulala.
Est-ce que lorsque vous avez choisi la natation comme sport, vous aviez dans un coin de votre tête que peut-être un jour ça vous permettrait de pécho des meufs ?
Alors là, jamais. Sachant.
Oh non !
Ah non, vraiment, vraiment. Sachant ce à quoi je ressemblais il y a encore quelques années, c'était pas gagné. Quand même.
C'est vrai, c'est-à-dire
bah, j'ai jamais été ni le musclé de la bande, ni le beau gosse. J'étais plutôt
le longiligne.
Le gamin un peu famélique, avec des boutons sur le visage, etc. J'étais plutôt celui-là. Donc peut-être que d'arrêter d'avoir pris un petit peu de poids, ça m'a aidé.
Ah, ça veut dire que vous pêchez en ce moment.
Ah non, mais... C'est une information, information qui balance comme ça. Voilà. Ça revient quand même beaucoup, ce fantasme du corps du nageur. C'est intéressant parce que vous, au contraire, vous nous disiez à l'instant, ce corps, c'était votre outil de travail, mais rien de plus, c'était pas du tout une fierté à aucun moment. Même quand vous étiez au top physiquement, Vous vous êtes jamais dit, vous avez jamais aimé, genre à la plage, vous dire, tiens, je suis comme Yannick Agnel, je vais un peu leur montrer. Non, c'est pas un truc qui vous traversait l'esprit.
Alors, ça, c'était pas un truc qui me traversait l'esprit à l'époque, mais maintenant que j'ai pris un peu de, tu sais, la bedaine, le fameux dad bod, tu vois, c'est un peu plus difficile de se dévêtir à la plage.
C'est donc, vrai
ah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Je me dis, mais ils sont passés où, les abdos, ils sont cachés, ça y est, c'est fini.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
De l'info, des infos, de la culture dans une ambiance détendue et conviviale. C'est votre rendez-vous feel good de l'après-midi. Vous me pardonnerez cet anglicisme. Et le week-end, eh bien, on se remet un petit peu dans l'ambiance, dans le grand bain. L'équipe est sauvage. Se poursuit maintenant avec un bon plan sorti.
Cette séquence bon plan, sortie ou curiosité près de chez vous. Voici Régional Géographique. Bonjour Arthur Nbaché.
Bonjour Mathieu.
Quand la musique fait avancer la science, l'avenir de jeunes chefs d'orchestre se joue ces jours-ci à Besançon. Il y a un concours de réputation internationale et l'avenir de la médecine aussi. Des chercheurs de l'Université de Franche-Comté profitent de la profusion de concerts symphoniques pour mener des expériences sur les émotions avec des applications envisageables sur des patients dans la vraie vie. Mais Arthur, comment c'est possible ça ?
Alors apparemment c'est une question d'orgasme et j'ajouterai pour être fidèle au docteur Pazard qui coordonne toute cette expérience une question d'orgasme collectif.
Encore
tout
mieux.
Le monde agit de la même manière, ils ont vraiment l'impression de vivre un orgasme collectif et donc c'est ce qu'on appelle l'orgasme cutané, c'est le frisson et c'est ce que l'on recherche aujourd'hui.
On part pour l'orgasme ?
Allez, on part pour l'orgasme, comme vous voulez.
Excusez-moi, Colette, est-ce que vous savez que le médecin-chef a l'intention de nous faire vivre un orgasme collectif ?
Ah ben moi, tout me tente. Moi, j'aime les expériences, j'aime tout découvrir. Pourquoi pas, quoi ?
Alors, Arthur, qu'avez-vous fait en vrai dans cette salle de concert de Besançon ?
Avec Colette.
Alors, c'est très sérieux avec Colette. Théâtre à l'italienne, imaginez, premier balcon, l'orchestre qui est prêt, tout est normal, sauf une rangée de spectateurs, ils ont des fils branchés un peu partout.
On est un peu comme des cosmonautes juste avant le décollage.
Alors, j'ai un casque avec des électrodes.
Interdit de bouger. On ne doit pas non plus aller faire pipi.
Deux électrodes pour mesurer un peu les émotions au niveau de la peau, si j'ai bien compris. Et un autre électrode pour mesurer les émotions au niveau du cœur, la fréquence cardiaque. Ça va être intense.
Et les scientifiques, Arthur, ils font quoi ensuite de ces résultats ?
Alors, ils vont identifier ce qui se passe dans notre corps au moment où on ressent une émotion, une vraie émotion qui donne des frissons, qui transporte. Et parmi les pistes d'application médicale, et là vous allez voir, c'est très sérieux, plus de blagues, les médecins m'ont parlé de Vincent Lambert, vous savez, celui qui est mort l'été dernier après des années en état végétatif. Eh bien, peut-être que d'ici quelques années, grâce à cette expérience de Besançon, on pourra faire ce qu'on n'a pas réussi avec lui, affirmer qu'une larme, par exemple, sur le visage d'une personne qui est dans le coma, eh bien, c'est une réaction réflexe, purement physique, sans sentiment derrière, ou, à l'inverse, bel et bien la conséquence d'une émotion ressentie par le patient.
Passionnant, vraiment passionnant.
Ah oui, c'est génial. Hein.
Arthur Nbaché, je vous dis bravo, vous êtes notre correspondant Europe 1 dans l'Est.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Oui, le nouveau rendez-vous de Mathieu Noël avec sa complice Eva Rock, qui nous propose donc ce rendez-vous au ton décalé qui touche à sa fin, il faut le dire. Je rappelle simplement le principe, chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 se lancent dans une compétition. Un seul est élu chroniqueur du jour, celui ou celle dont le sujet vous séduit le plus. Et on poursuit à présent avec Axel de Tarlé, il était face à Dave.
Oui. Alors pourquoi Beyoncé pour annoncer la chronique écho d'Axel de Tarlé ? Eh bien Axel m'a dit arrête avec le dauphin d'or, je passe pour un blaireau, essaye de me mettre plus en valeur. En outre, après son dernier revers mercredi dernier, revers accompagné qui plus est d'un nouveau moment de solitude terrible face à l'or d'Autriche quand l'or a félicité l'autre journaliste Alain Sirou et pas vous.
T'as été brillant Alain, comme d'habitude.
Et moi, tu me demandes pas ?
Je dois dire que j'ai une relation particulière avec Alain.
Ah bah d'accord.
Vraiment, je vous demande d'encourager Axelou. Axelou qui est vraiment au fond du trou. Alors, encourageons Axel. Où Dave doit-il investir le flouze qu'il va récolter avec son album ? Dites-le nous.
Dans l'or. L'or qui est le nouveau placement vedette de cette année 2019. Près de 20% de hausse depuis le début de l'année. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'or avant avait un énorme handicap. C'est que l'or... Ça ne produisait rien. Un lingot d'or, ça n'a jamais fait de petit. Hein. Alors que si vous investissez dans des actions, dans le livret A, dans l'assurance vie, vous avez...
Tout ça ne rapporte plus rien, de toute façon.
Eh ben, vous venez de le dire. Maintenant, ça ne rapporte plus rien.
C'est pas l'or qui monte, c'est...
En fait, si vous voulez, l'or qui avait un handicap, c'est qu'il ne rapportait rien. Aujourd'hui, ce n'est plus un handicap de faire zéro, puisqu'on est dans les taux zéro. Donc, l'or a perdu ce handicap. L'or est comme les autres, maintenant. Mais l'or, maintenant, il monte pour deux autres raisons. Un, il y a beaucoup d'acheteurs, notamment en Chine, la Banque de Chine et la Banque de Russie.
parce que ces deux pays sont fâchés avec Donald Trump, sont surtout fâchés avec le dollar. Au fond,
Donald
Trump a tendance à utiliser le dollar comme d'une arme. N'allez pas en Iran, le premier qui utilise. Alors du coup, il y a beaucoup de pays qui en ont assez de cette domination du dollar et qui se détournent du roi dollar et mettent dans leurs réserves de l'or. Et la troisième raison, alors ça c'est la raison historique depuis des millénaires, l'or est une valeur refuge. Dès qu'il y a un pépin sur Terre, on achète de l'or en se disant, écoutez, l'or c'est pas grand, hein, c'est un lingot, c'est grand comme un plus petit qu'un téléphone portable.
Oui, mais c'est plus lourd.
Oui, et ça vaut 45 000 euros. Dans des tas de pays, vous pouvez refaire votre vie avec 45 000 euros. Donc, d'où cette idée que si tout tourne mal, je peux m'enfuir avec un lingot d'or, je pourrais m'en sortir, je trouverai au moins quelqu'un pour acheter un steak, pour acheter à manger. Et donc, dès que ça va mal, l'or monte. Et aujourd'hui encore, vous avez vu avec l'attaque des raffineries de pétrole en Arabie Saoudite, eh bien l'or, ce matin, a bondi. On est passé au-delà des 1500 dollars l'once. Dès que le monde est risqué, et il est en ce moment avec un Donald Trump un peu imprévisible, vous avez l'or qui flambe.
Mais alors, comment on fait ? On va voir son banquier, on lui dit je veux acheter de l'or ?
Ah bah oui, alors il y en a partout, hein, des boutiques qui vendent de l'or. Alors,
à la caisse d'épargne, on peut acheter de l'or ?
Vous pouvez acheter de l'or, voilà. Le lingot, je vous l'ai dit. Alors bon, 44 000 euros. Vous avez aussi le gros lingot, vous savez, celui qu'on voit dans les films de 12 kilos.
Ah oui, bon. Celui dans La Soif de l'or avec Christian Clavier.
Voilà, qui est un peu plus... Lui, il vaut quand même 500 000 euros, donc il faut quand même en avoir sous le pied.
Dis donc, hein. Monsieur Télérama, moi, là. J'ai des références populaires, il regarde, il souffle. Moi, je pense à Christian Clavier, La Soif de l'or, je vous en prie.
Voilà, et vous avez les petits lingotins de 1 gramme, ou alors, si vous avez besoin d'or, vous voyez, moi, regardez, vous pouvez défaire votre mariage et aller vendre votre propre alliance. Et après, vous allez consommer tout ça au bar. Vous avez une valeur.
Il est vraiment prêt à tout pour choper les 3 points. Voilà. Mais il nous reste.
Voilà les bons conseils.
Très bien. Salut votre femme.
La question vache de l'autre chroniqueur, Nicolas.
C'est pas vraiment une question vache, c'est une question basique. Combien pèse une once d'or ?
31 grammes.
Bravo.
Et pam !
C'était l'équipe est sauvage, un rendez-vous où l'on apprend tout en s'amusant. L'équipe est sauvage tous les jours de 16h à 18h. Et vous retrouverez bien sûr Mathieu Noël dès lundi avec la chanteuse Rose. Elle chantera d'ailleurs en live dans un instant. Et bien on va retrouver Wendy Bouchard pour votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Bonne fin de week-end avec nous.